Bonjour, bonjour à tous, mardi 13 novembre 2018. Bienvenue dans les voies de service sur Canal M. Et pour commencer cette émission, je dois dire je suis parce que Yves Olivier n'est pas là. Il nous a promis la semaine dernière un sujet dont on voulait connaître le secret, pourquoi les mannequins ne sourient pas. Et nous allons devoir attendre une semaine de plus, je pense. Combe, qui est à mes côtés, et furieux également.
Également.
Je le vois, c'est ça, vraiment...
Je bouillonne.
On nous l'avions prévenu pourtant, il nous a teasé et il n'est pas là. Il y aura une explication de texte la semaine prochaine avant l'émission, c'est certain. Nous sommes bien là, donc Combe et moi, pour passer ensemble 7 heures. Et nous avons plein de sujets tout aussi intéressants que les mannequins, tout aussi surprenants. Quels sont-ils de votre côté, Combe ?
Alors, très simplement, on ira voir de la momification donc de l'Égypte à la Gaule.
En Gaule aussi,
tiens. Ah, en Gaule aussi, évidemment, évidemment. On parlera de nos amis les tigres et les rhinocéros un petit peu. Et puis, on s'envolera de nouveau dans l'espace pour découvrir plein de belles choses. On ira faire un voyage, notamment sur Vénus, en dirigeable.
Oh, en dirigeable, très bien. Bon, plein de surprises dans ces sujets, j'aime ça, j'aime entendre ça. Puis des surprises, il y en a dans les miens également. Nous parlerons par exemple d'un combat entre un surfeur et un requin, et c'est le surfeur qui a gagné avec une méthode assez particulière. Nous parlerons également de truffes. Bah oui, c'est la période de Noël approche, les repas de Noël, alors il est temps de penser au menu peut-être. Je vous parlerai d'une truffe assez chère, il faut mettre de côté. Ou également, eh bien, Bill Gates, qui est en Chine et qui défend la révolution des toilettes. C'est en marche, et je vous en parle dans quelques instants, dans les voies de service.
Et donc, on s'en va en Égypte, du côté de Saqqara, où 7 tombes, dont 4 datant de plus de 6000 ans, ont été mises à jour sur le site, donc près du Caire, par une mission archéologique égyptienne, avec notamment des scarabées et des chats momifiés, ont annoncé les autorités samedi 10 novembre. La découverte a eu lieu autour d'une zone rocailleuse bordant le complexe funéraire d'Userkaf, dans la nécropole royale de Saqqara, capitale de l'ancien empire. 3 de ces tombes remontent à l'époque du Nouvel Empire et ont été utilisées comme nécropole pour chats, a-t-il ajouté dans un communiqué. Les 4 autres tombes, datant de l'ancien empire, pardon, soit 4300 ans avant Jésus-Christ, dont la plus importante est celle de Khufu Imat, gardien des édifices appartenant au palais royal. Elle date de la fin de la 5e dynastie et des débuts de la 6e, toujours selon le ministre. Une mission française, par le passé, avait déjà fouillé la partie est de ce site et déjà livré de nombreuses momies d'animaux. Le site de Saqqara est une vaste nécropole de la région de l'ancienne Memphis, où se trouvent d'innombrables tombes et les premières pyramides pharaoniques. De son côté, le secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités, Mostafa Waziri, a indiqué que la mission égyptienne travaillée sur le site depuis 2018 avait aussi exhumé les premiers scarabées momifiés jamais découverts dans cette nécropole. Enveloppés dans du lin, 2 grands scarabées momifiés se trouvaient à l'intérieur d'un petit sarcophage rectangulaire en calcaire, a-t-il précisé. Une autre collection de scarabées momifiés a aussi été dégagée d'un coffret scellé décoré d'un de ces coléoptères peints en noir. Des dizaines de chats momifiés ont été également retrouvés, ainsi qu'une centaine de statues de ces félidés en bois doré, en plus d'une statue en bronze dédiée Bastet, la déesse à tête de chat. Une collection de statues en bois doré figurant un lion, une vache et un faucon font partie des objets mis au jour, selon M. Waziri. De même que 2 sarcophages en bois de crocodile, 1 millier d'amulettes en faïence, des vases canopes, des papyrus recouverts d'écritures démotiques, ainsi que quelques chapitres du Livre des Morts, des formules funéraires généralement placées à proximité des momies. Les anciens Égyptiens croyaient dans l'immortalité et se faisaient momifier pour préserver leur corps après la mort, tandis que les momies animales étaient utilisées en tant qu'offrandes. Des animaux étaient momifiés par millions en Égypte. Ils étaient vus comme des manifestations physiques des divinités vénérées par les Égyptiens. Pour faire revenir les visiteurs après la chute du tourisme qui a succédé le printemps arabe, les autorités du Caire n'ont de cesse que de montrer la richesse exceptionnelle de la civilisation de l'Égypte ancienne.
Et donc, Les chats, j'arrive à imaginer, mais je les scarabées pour les momifier.
Ça devait être effectivement un sacré processus.
Au microscope. Et je vous parle d'un animal, moi aussi, un animal un peu plus gros, un peu plus effrayant encore que le scarabée pour certains quand on le croise dans la salle de bain, ça peut faire hurler, mais vous ne croiserez sûrement pas un grand requin dans votre salle de bain, du moins je ne vous le souhaite pas. Ça se passe du côté de l'Australie, où un surfeur s'est battu contre un requin et l'a repoussé à coup de planche. On fait avec ce qu'on a sous la main dans ces cas-là. Un surfeur a repoussé, c'était mercredi passé, un requin qui l'avait attaqué et blessé sur la côte est de l'Australie. L'homme de 43 ans surfait à Shelley Beach, un endroit touristique de Ballina situé à 750 km au nord de Sydney, quand un requin lui a mordu le mollet gauche, a indiqué la police de l'État. Le requin lui a attrapé la jambe et l'a fait tomber de sa planche. Le surfeur l'a utilisé, sa planche, pour repousser le squale, a déclaré la radio 2GB, à la radio 2GB le maire de Ballina. Il a précisé que le surfeur, qui souffrait d'une blessure longue de 20 cm tout de même et qui saignait, une blessure à la jambe, était parvenu à regagner la plage et à se bander la jambe avant d'être hospitalisé. En lisant ça, moi, ça me fait penser, il y a un débat autour du prochain acteur de James Bond, qui va-t-il être? On a peut-être un candidat, là, potentiel,
effectivement,
avec se battre contre un requin.
Un combattant de requin.
Il a ajouté que le requin mesurait probablement 1,5 mètre. Shelley Beach et les plages voisines avaient été fermées pour 24 heures, les autorités tentant de déterminer le type de requin à l'origine de l'attaque. Celle-ci est survenue 2 jours après la mort lundi soir d'un nageur qui avait été blessé dans l'après-midi dans l'archipel des Whitsundays au large du Queensland. Il s'agissait de la 3e attaque du genre en 2 mois dans ce secteur. Une fillette de 12 ans et une femme de 46 ans avaient également été grièvement blessées dans des attaques de requins à 24 heures d'intervalle en septembre dans la même zone. 6 requins de grande taille avaient été tués dans la foulée, ont annoncé les autorités. Tadashi Nakahara, un surfeur japonais, était mort malheureusement, lui, en février 2015 à Ballina, après avoir eu les jambes arrachées par un grand requin blanc, une espèce protégée, on le rappelle. Les derniers incidents ont ravivé les débats sur le meilleur moyen d'éviter les rencontres entre requins et amateurs, de plus en plus nombreux, amateurs de sport nautique, et dont les planches prêtent à confusion pour les grands requins. Bon nombre de spécialistes de la biologie marine sont, rappelons-le, contre l'abattage des requins. Et à titre personnel, je partage leur avis. Ou alors, il faudrait qu'il y en ait autant qui soient tués de chaque côté.
De chaque côté, effectivement, pour un requin, un humain, effectivement.
Pensons aux millions de requins qui sont tués chaque année.
Donc, pensez bien à affûter votre planche maintenant avant d'aller surfer.
Exactement. Quelques cours de boxe, une bonne planche et tout ira bien.
de l'Australie à la Californie en surfant. C'était la pièce Surf Rider de la formation The Lively Ones.
Merci pour ce voyage dans le Pacifique, Jean-Sébastien. Des nouvelles animalières, et ben poursuivons avec les animaux, tiens, ils nous vont si bien.
Exactement, donc j'imagine que la nouvelle n'était pas passée inaperçue pour tout le monde. La Chine avait récemment autorisé de nouveau le commerce de produits issus de tigres et de rhinocéros.
Effectivement.
Donc ce qui était une nouvelle pas très agréable, j'imagine.
Les gens, oui, avaient beaucoup réagi. Alors qu'en est-il ?
Exactement, et bien suite à ces réactions, donc la Chine va maintenir pour l'instant l'interdiction totale du commerce de produits issus de tigres et de rhinocéros après le tollé suscité par l'annonce de son assouplissement. A indiqué le 12 novembre 2018 un haut responsable dans une interview. Le gouvernement avait annoncé fin octobre 2018 que la vente de produits tels que l'os de tigre ou la corne de rhinocéros pourra être autorisée dans des conditions particulières, c'est-à-dire la recherche scientifique, le commerce d'œuvres d'art ou encore la recherche et les traitements médicaux. Cette décision avait provoqué la colère d'associations de défense des animaux sauvages, certaines parlant alors d'un arrêt de mort pour ces espèces en danger. Mais dans une interview publiée quelques jours après par l'agence de presse officielle de Chine Nouvelle, l'agence de presse officielle Chine Nouvelle, un haut responsable gouvernemental a indiqué que la nouvelle réglementation n'était pas appliquée. Après étude, la publication des règles détaillées a été reportée, a indiqué Ding Shuedong, le secrétaire général adjoint du Conseil des affaires d'État. Les interdictions continueront à être appliquées, a-t-il ajouté, en référence à l'importation, à l'exportation, à la vente, au transport ou encore à l'utilisation de produits issus de tigres ou de rhinocéros. Selon le haut responsable, la lutte contre le commerce illégal de ces produits se poursuivra et les actes illégaux seront traités avec sévérité. Il existe une demande persistante en Chine pour des produits dérivés du tigre et du rhinocéros, parés de pouvoirs très controversés, notamment aphrodisiaques ou contre le cancer. La Chine interdit totalement depuis 1993 le commerce de cornes de rhinocéros et d'os de tigre. Mais le marché noir a remplacé dans une certaine mesure le commerce légal. Le nombre de tigres élevés en captivité dans le pays a fortement augmenté ces dernières années. On en compte aujourd'hui plus de 6000, alors que la planète n'abriterait plus au total qu'un peu plus de 3000 individus en liberté. Quant aux différentes espèces de rhinocéros, l'Union internationale pour la conservation de la nature les classe en catégories vulnérables, quasi menacées ou en danger critique d'extinction. La Chine a déjà pris les mesures de protection d'espèces sauvages menacées. Elle a notamment interdit totalement fin 2017 la vente et la transformation de l'ivoire d'éléphant, après avoir déjà banni son importation en 2015. Et ça me fait penser que il me semble avoir vu il y a quelques jours que le dernier rhinocéros blanc était mort. Donc l'espèce est éteinte, effectivement. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour ces deux.
Protégeons-les. Quand on a des bonnes idées, ne faisons pas marche arrière comme des débiles ensuite.
Effectivement.
Je vous parle également d'une chose rare, alors ça n'est pas une chose qui bouge, c'est une chose qui se mange. Les fêtes de fin d'année approchent, et il va donc falloir penser au menu bientôt. Eh bien, si vous avez 85 000 euros de côté, j'ai une idée pour vous. Il s'agit d'une truffe, une truffe blanche d'Alba. La vente s'est déroulée en liaison avec Hong Kong, où se trouvait l'acquéreur de la truffe blanche en question, dont l'identité n'a pas été révélée. L'identité n'est jamais révélée dans ces cas-là, c'est frustrant. Le prix de cette truffe exceptionnelle ne correspond pas au prix du marché, qui cette année tourne plutôt autour de 350 euros les 100 grammes, a expliqué à l'AFP une porte-parole de la vente. Ce qui explique cette enchère aussi élevée, c'est le fait que le bénéfice de la vente est destiné à des œuvres de bienfaisance et aussi la rareté quand même de cette truffe de 850 grammes, car plus la truffe est grande, plus elle a de la valeur. Chaque année, depuis 88 ans, la ville d'Alba, dans le Piémont, en Italie, accueille pendant presque 2 mois une grande foire à la truffe blanche, au cours de laquelle se déroule la vente aux enchères. La truffe blanche d'Alba, qui se récolte, alors attention, il ne faut pas manquer la fenêtre, qui se récolte du 21 septembre au 31 janvier, pas un jour de plus, pas un jour de moins, est extrêmement réputée dans le marché. Elle est caractérisée par un parfum intense qui évoque les rencontres romantiques, les bois, la nature. Elle est très évocatrice, a expliqué Antonio De Giacomi, le président du Centre National d'Études de la Truffe. La récolte est excellente cette année, tant d'un point de vue de la qualité que des quantités, après une saison difficile l'année dernière. Cette saison est très positive parce qu'il y a eu des précipitations en juillet et en août, et des orages qui ont pu donner un bon apport d'eau. Et la truffe, comme on le sait, est un champignon hypogée et a donc besoin d'une saison de ce type, a souligné M. De Giacomi. Conséquence de cette bonne récolte, eh bien les prix sont en baisse, pour le plus grand plaisir des restaurateurs et gourmets. L'année dernière, en raison de la sécheresse qui avait conduit à une faible récolte, on était arrivé à 600-700 euros les 100 grammes. Cette année, nous sommes partis à 250 et maintenant nous sommes autour de 350 euros pour des pépites pesant en moyenne 20 grammes, a souligné M. De Giacomi. Voilà, c'était une truffe blanche d'Alba vendue 85 000 euros en Italie.
Eh bien, à ce prix-là, vaut mieux être sûr de la recette. Parce que...
Ah oui, il ne faut pas se tromper et ne pas l'oublier sur le feu.
Extrait de son plus récent album qui s'intitule « Dans la forêt numérique » qu'on vient d'entendre de vive voix, Jérôme Minière sur Canal M.
dans la forêt numérique. Merci Jean-Sébastien. Et nous allons dans une autre forêt, je crois, à Côme. Nous partons en Gaule, c'est bien ça?
Tout à fait, effectivement. Donc on a tous, j'imagine, l'idée de ces Gaulois, ma foi, fêtards, qui rigolent autour d'un bon banquet et d'un sanglier rôti.
Oui, ça renvoie bien.
Tout n'était pas si rose, effectivement. Dans sa géographie, l'auteur grec Strabon, en 63 avant Jésus-Christ, rapportait que les Celtes, donc l'autre nom pour nos Gaulois, peuple de farouches guerriers, se livraient à de redoutables pratiques. Un rite impressionnant était en effet de trancher la tête des vaincus à la fin des batailles. L'historien raconte ainsi qu'au retour du combat, ils attachaient les têtes de leurs ennemis à l'encolure de leurs chevaux pour, une fois rentrés chez eux, les enclouer devant leurs portes. À l'entrée de bâtiments publics ou des maisons, des représentations gravées ou sculptées de ce rituel des têtes coupées se retrouvent dans tout l'art celte de l'âge du fer. Depuis quelques décennies, des découvertes archéologiques ont attesté ces comportements à Roquepertuse, Entremont ou Ribemont-sur-Ancre, y compris de crânes transpercés d'énormes clous. Mais l'archéologue Réjeanne Roure et son équipe de l'université Paul-Valéry Montpellier III viennent de faire une découverte majeure au Quélard, au sud de Nîmes, l'embaumement des têtes trophées. Parmi plus de 2800 ossements, cet autre comportement évoqué dans l'Antiquité a pu être identifié. Dans un article publié dans la revue Journal of Archaeological Science, les spécialistes dévoilent avoir analysé chimiquement, par spectromètre de masse et chromatographie en phase gazeuse, donc ne me demandez pas en quoi consiste le procédé, les crânes exhumés sur le site du Languedoc, occupés par des populations celtes dès le 4e et 3e siècle avant notre ère, et avoir ainsi constaté sur une dizaine d'échantillons la présence de biomarqueurs de résine de conifères et des molécules organiques de composés aromatiques obtenus après chauffage des substances diterpénoïdes, indique Réjeanne Roure, jointe par Science et Avenir. Ce qui confirme pour la première fois les récits des historiens antiques décrivant il y a plus de 2000 ans que les Celtes oignaient d'huile de cèdre et les exhibaient à leurs hôtes, refusant de les rendre même en échange de leur poids en or. Ces butins momifiés, après soustraction des parties molles, comme la langue et le cerveau, étaient ensuite sauvegardés dans des caisses transmises de génération en génération. C'est un très beau cadeau de la part des grands-parents. Par la conservation de la partie la plus symbolique de l'individu, ces comportements étaient sans doute une forme d'hommage au vaincu, tout en représentant de façon très concrète la valeur du guerrier vainqueur, ajouterait Jeanne Roure. D'abord révulsé par ce spectacle, qu'il avait vu dans bien des endroits lors d'un voyage en Gaule, le savant grec Poséidonios, témoin oculaire, avait reconnu s'y être accoutumé par la suite en le supportant avec sérénité. Et c'est aux Romains que l'on doit d'avoir mis un terme à cette pratique. Depuis les dernières décennies, des trouvailles exceptionnelles concernant la période qui s'étend du 5e siècle avant Jésus-Christ à la conquête romaine, à peu près au 1er siècle avant Jésus-Christ, s'accumulent sur notre territoire, modifiant considérablement la vision que nous avions des peuples vivant au nord des Alpes, que les Grecs nommaient Celtes et les Romains Gaulois.
Mais dis donc, votre article arrive deux semaines en retard, c'était pour Halloween qu'il fallait nous lire ça, parce que moi ça me donne froid dans le dos.
C'est... Alors, je crois que la pratique s'est terminée depuis dans cette région.
J'espère bien, oui, j'y vais de temps en temps, je crois que c'est fini, effectivement. Peau de chambre en main, Bill Gates défend la révolution des toilettes en Chine. Voilà, tout est dit. Ça fait beaucoup de mots qui ne vont pas ensemble dans la même phrase, mais c'est une insolite, assurément. Le fondateur du Microsoft a réparé cette lacune mardi en apparaissant à Pékin à côté d'un récipient de déjection humaine dont la couleur et la forme ne laissaient rien à l'imagination. Objectif pour le richissime américain, attirer l'attention sur le manque de toilettes dans les pays en développement. Dans les endroits qui n'ont pas d'assainissement, il y a beaucoup plus que là-dedans, a-t-il déclaré, montrant le pot posé à côté de lui, alors qu'il s'adressait à un forum sur l'avenir des toilettes dans le monde. Quand les enfants vont jouer dehors, ils sont exposés à ça tout le temps, a martelé le milliardaire. Ce n'est pas juste une question de qualité de vie, c'est lié aux maladies, à la mort et à la malnutrition, a-t-il dit. L'ancien patron de Microsoft a expliqué que les excréments dans le contenant renfermaient potentiellement 200 000 milliards de cellules de rotavirus, 20 milliards de bactéries Shigella et 100 000 œufs de vers parasites. Des pathogènes comme cela, a-t-il ajouté, causent des maladies qui tuent chaque année près de 500 000 enfants âgés de moins de 5 ans. À la tête de sa fondation humanitaire, la Bill et Melinda Gates Foundation, le philanthrope a consacré une partie de sa fortune à la généralisation des toilettes dans le monde, en particulier des toilettes sèches utilisables dans les zones en manque d'eau. Selon l'UNICEF, près de 900 millions de personnes n'ont pas d'autre choix que de faire leurs besoins en plein air. Dans un pays comme l'Inde, par exemple, c'est encore le cas de 150 millions d'habitants, contre 550 millions en 2014, selon New Delhi. Il y a donc une amélioration, mais il y a du travail encore. Bill Gates a rendu hommage aux efforts faits par la Chine pour améliorer l'hygiène de ses toilettes publiques, jadis repérables de loin par leur odeur. Le président Xi Jinping fait encore campagne lui-même pour une révolution des toilettes dans la deuxième économie mondiale. Et bien voilà, c'est le combat que mène en ce moment Bill Gates, qui pourrait prêter à sourire comme ça quand on le lit rapidement, mais qui est un vrai enjeu de société, et puis nous sommes de plus en plus sur cette planète, alors tâchons d'y être proprement.
Essayons de nettoyer, effectivement.
Essayons de nettoyer derrière nous. Nous allons revenir juste après une courte pause. Je vous reparlerai, moi, par exemple, de truffes. J'ai une autre insolite à ce sujet. Je vous parlerai d'une université pour apprendre à chercher les truffes. Ça vous concerne surtout si vous êtes un chien. Donc, si vous nous écoutez, les amis canidés, eh bien, nous revenons dans quelques instants. À tout de suite. Voici, nous revoilà avec un sujet un peu plus sérieux, un peu moins léger que les précédents, mais je crois tout aussi intéressant, comme on parle de cancer. C'est
tout à fait. Bah alors, pas de cancer, enfin, on va parler de cancer, mais plutôt de tentatives de guérison, ce qui est plus intéressant et moins déprimant
plus
tout de même. Soigner un cancer en provoquant le suicide des cellules malignes, mais sans atteindre les autres, c'est ce que proposent de nouveaux travaux américains publiés dans eLife et Nature Communications. Ces derniers se basent sur des molécules naturellement utilisées par les cellules pour réguler l'utilisation des gènes. Encore à l'état fondamental, ces résultats permettent d'identifier une molécule particulière qui pourrait peut-être, à terme, remplacer les chimiothérapies. Traitement donc très lourd, on le sait. Chaque jour, au hasard des potentielles mutations subies par notre ADN au moment de sa duplication ou sous l'effet de différentes substances, de nombreuses cellules naissent non fonctionnelles dans notre organisme. Certaines d'entre elles acquièrent des propriétés dangereuses. Elles se multiplient anarchiquement ou peuvent échapper au système immunitaire. Des particularités qui pourraient provoquer un cancer. Heureusement, chacune de nos cellules est dotée d'une capacité appelée apoptose. C'est le suicide cellulaire. Les cellules peuvent en effet se détecter elles-mêmes comme non fonctionnelles et activer des gènes menant à leur destruction. Pour cela, elles synthétisent des petites molécules qui vont se fixer à certains ARN. L'ARN, c'est l'intermédiaire permettant de traduire l'ADN en protéines. Ces petites molécules, ce sont en fait elles-mêmes des ARN, appelées ARN interférents, dont la séquence est complémentaire de celle de l'ARN visé. Mais ces cellules véritablement cancéreuses sont les rares qui ont acquis une capacité supplémentaire par mutation, celle de ne pas pouvoir enclencher l'apoptose. Pourtant, les séquences génétiques permettant d'activer ces ARN interférents existent bien. Pour les activer, il est possible d'utiliser une chimiothérapie. Cependant, ce sont des traitements lourds, aux nombreux effets indésirables, qui s'attaquent également à certaines cellules saines. Et des chercheurs de la Northwestern University à Chicago ont donc eu l'idée d'apporter directement les ARN interférents, permettant de réactiver l'apoptose aux cellules cancéreuses. Dans les travaux publiés en 2017, l'équipe a commencé par montrer que les cellules cancéreuses mouraient après l'introduction de certains ARN interférents. Le problème avec les cellules cancéreuses est qu'elles se multiplient si rapidement qu'elles peuvent développer des résistances aux traitements qui les tuent, à la manière des bactéries face aux antibiotiques. Ici, l'équipe a cependant constaté que les cellules cancéreuses traitées avec les molécules d'ARN ne devenaient jamais résistantes, car l'effet de ces ARN interférents est fulgurant au point qu'elles éliminent simultanément plusieurs gènes dont elles ont besoin pour survivre. Les cellules peuvent devenir résistantes à un mécanisme d'action, mais pas à plusieurs différents en simultané. C'est comme se suicider en se poignardant, en se tirant dessus et en sautant d'un bâtiment en même temps. Vous ne pouvez pas survivre. Voilà, excusez-moi, j'étais perdu dans mon article. Dans les derniers travaux publiés en 2018, l'équipe du Dr Peter a testé les 4096 combinaisons différentes de cette séquence de 6 nucléotides jusqu'à trouver la plus toxique pour les cellules cancéreuses. Surprenamment, ils ont trouvé une séquence existant réellement dans notre organisme comme un mécanisme pour combattre le cancer. un mécanisme de défense développé il y a 800 millions d'années par les cellules, d'après les scientifiques. En creusant un peu plus du mécanisme d'action, ils ont découvert que les cellules coupaient un gène impliqué dans la croissance cellulaire en petits morceaux, des fragments qui devenaient alors hautement toxiques pour les cellules cancéreuses. D'après les chercheurs, près de 3% des ARN de la cellule pourraient être ainsi découpés. Et sur la base de ce que nous avons appris au cours de ces deux études, nous pouvons maintenant concevoir des micro-ARN artificiels encore plus puissants contre les cellules cancéreuses que ceux développés par la nature, a déclaré Marcus Miller, et donc un processus qui prendra encore de nombreuses années.
C'est beaucoup plus scientifique que ce que j'imaginais, moi qui pensais que les scientifiques se contentaient de donner plein de mauvaises nouvelles de l'actualité aux petites cellules pour qu'elles se suicident. Ça n'est pas ça. Comment possédez-vous un animal de compagnie ?
Pas en ce moment, j'en ai eu beaucoup, mais pas en ce
beaucoup
moment.
Beaucoup longtemps, des chiens peut-être, j'imagine.
Des chiens, oui, un chien, effectivement.
Très bien, j'en ai eu un aussi, j'aimerais beaucoup en avoir un. Ça n'est pour l'instant pas possible, mais ce n'est qu'une question de temps. Et j'ai une raison supplémentaire pour en vouloir un. Ben, ça peut rapporter gros un chien, surtout quand c'est un chien truffier. Et je vous emmène en Italie, dans leur université. Allez Rocky, cherche bien, voilà bravo. Le labrador remue la queue, heureux d'avoir réussi à débusquer le trésor, une truffe. Pendant 3 semaines, Rocky a suivi les cours de l'université des chiens truffiers en Italie et fait désormais la fierté de son maître. À la tête de cette académie pas comme les autres, située à Rodi dans le nord-ouest, figure Giovanni Monchiero, qui, comme ses pères, grands-pères et arrière-grands-pères, peut transformer de simples canidés en chiens truffiers. Entraîner un chien à chercher des truffes est quelque chose de très simple, il faut juste avoir beaucoup de patience et partir du fait que pour eux, c'est un jeu, explique Giovanni, 55 ans. On commence en faisant jouer le chien avec la truffe. Moi, j'utilise de la truffe fraîche, mais ceux qui n'en ont pas peuvent mettre un peu d'huile parfumée à la truffe sur une balle de tennis. On la lance, le chien doit la récupérer et on le récompense avec des croquettes. Ensuite, le maître complique le jeu en lançant la truffe dans un endroit herbeux où le chien ne voit pas où elle tombe. Là, il faut commencer à donner des commandes vocales. « Allez, cherche bien, tu l'as trouvé, bravo !» Il faut toujours le féliciter et le récompenser, souligne Giovanni. Une fois que le chien a bien assimilé l'arôme de la truffe, l'étape suivante consiste à la cacher. À la cacher sous terre, au début pas très profondément. La région d'Alba, où nous étions déjà tout à l'heure, puisque la truffe à 85 000 euros venait de là-bas, eh bien la région d'Alba, où se trouve Rodi aussi, est célèbre pour sa truffe blanche, caractérisée, comme je vous le disais tout à l'heure, par un parfum intense. Partir à la recherche des truffes, c'est une passion, explique Giovanni, qui y va du matin au soir. Pendant la saison, du 21 septembre au 31 janvier, on n'oublie pas, hein, 20 septembre c'est trop tôt, 1er février,
période, effectivement.
On note dans ses petits agendas. L'université des chiens truffiers a été fondée par son arrière-grand-père en 1880, et Giovanni Monchiero cultive cet héritage avec l'idée que si tous les chiens ne peuvent pas devenir truffiers, toutes les races ont leur chance. Il y a des chiens qui sont prédisposés à chercher la truffe, d'autres non, explique celui qui a même fait d'un petit pincher allemand un vrai expert. À raison d'un ou deux chiens à la fois, il a formé des dizaines de truffiers, même s'il n'a pas tenu le compte exact. Maître Monchiero est le meilleur de tout le Piémont, c'est déjà le troisième chien que je lui confie, assure Diego Guaraldo, propriétaire de Rocky. Il n'utilise pas de méthodes cruelles comme priver le chien de nourriture, mais des méthodes douces, note cet avocat de 36 ans, soulignant que le formateur transforme les chiens en vrais champions. Il réussit à déclencher quelque chose chez l'animal qui devient fou de truffes. C'est ce que nous cherchons tous, nous, chercheurs de truffes. Il faut que le chien soit méticuleux, concentré, qu'il ne se laisse pas perturber par l'odeur du gibier, ajoute-t-il. Avec le maître Monchiero, l'animal sent la truffe à 10, 15, 20 mètres de distance. La formation de 3 semaines avec Giovanni coûte seulement, si j'ose dire, 400 euros. Le maître explique qu'il entraîne ses élèves 3 fois par jour, mais arrête quand il voit que le chien en a marre ou est fatigué, pour reprendre 1 ou 2 heures plus tard. C'est un cours de base. Pour devenir un bon chien truffier, il faut en moyenne 3 ans. L'important, après la formation, est d'entraîner le chien de façon permanente, pas forcément tous les jours, mais au moins 1 jour sur 2. Rocky a, lui, toutes les capacités pour devenir un excellent chien truffier. Mais son petit défaut est, eh bien, qu'il mange les délicates pépites. Rien de grave, selon Giovanni. Il sait chercher la truffe, la trouver. Il faudra seulement lui apprendre à faire un échange truffe-croquette, assure-t-il, tout en soulignant que certains chiens grignotent toujours un peu la truffe. Mais, s'amuse Diego Guaraldo, il vaut mieux une truffe légèrement abîmée dans ma poche qu'une belle truffe dans la poche d'un autre. C'était l'université des truffes dans le Piémont.
Et alors, est-ce que les cochons sont autorisés dans cette université?
Ah, pas sûr. Effectivement, les cochons sont également de très bons animaux, mais peut-être qu'il y en a-t-il une autre à créer.
On
devrait partir dans le Piémont avec nos cochons.
On vient d'entendre la pièce 80's Life de la formation The Good, The Bad and The Queen, une des très nombreuses formations dans lesquelles on retrouve Damon Albarn, l'homme notamment derrière la formation Gorillaz. C'est tiré de leur album The Good, The Bad and The Queen, paru en 2007, et j'apprends à l'instant que leur second album devrait paraître cette semaine.
En plein dans l'actualité. Merci Jean-Sébastien pour toutes ces informations. Je vous emmène à présent en Suisse, où une expérimentation assez originale est en train d'avoir lieu. La Suisse est connue pour son chocolat, c'est une chose, pour son fromage également, et il est question de fromage dans cet article. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'un fromage, eh bien, ça s'affine, il faut du temps, il faut plein de choses que je ne connais pas d'ailleurs, des techniques d'affinage. Eh bien, ils sont en train d'en tester une à base de musique. La musique, dit-on, adoucit les mœurs, mais adoucit-elle le fromage? C'est la question que s'est posée un producteur des mentales suisses qui a, aidé par la Haute École des Arts de Berne, décidé pour le savoir d'affiner ses fromages en musique. Quand le visiteur entre dans la cave de Burgdorf, petite ville également baptisée Berthoud dans ce canton bilingue de Berne, le parfum du fromage en pleine maturation titille le nez. Dans un coin de cet ensemble voûté datant de 1853, 9 caisses en bois ouvertes sont installées, avec à l'intérieur de chacune une meule d'émental d'environ 40 cm de diamètre. Jusqu'ici, rien d'anormal. Mais l'oreille capte vite des sons emmêlés et lorsqu'on s'approche de plus près des fromages, on aperçoit un petit dispositif de sonorisation placé en dessous des émentales. Depuis septembre, un projet étonnant est ici en cours. Nom de code, sonoriser le fromage, expérience entre son et gastronomie. L'instigateur de cette initiative s'appelle Bert Wampelf, vétérinaire et fromager passionné qui s'est un jour demandé si les sons, la musique, ne pouvaient pas modifier le goût de ces meules. Les bactéries sont responsables de la formation du goût du fromage avec les enzymes qui influencent la maturation. Et je suis convaincu que l'humidité, la température ou les nutriments ne sont pas les seuls éléments à avoir une influence sur le goût, mais que les sons, les ultrasons ou la musique peuvent aussi avoir des effets physiques, explique-t-il à l'AFP. Ajoutant, après, est-ce que le fromage aura un meilleur goût? C'est difficile de le dire. Le fromager curieux a proposé à la Haute École des Arts de Berne de l'aider à mener l'enquête. « Nous avons examiné la question », raconte Michael Arenberg, directeur de la filière musique de la HKB. « Au départ, nous étions plutôt sceptiques, puis nous avons découvert qu'il existait un domaine que l'on appelle la sonochimie et qui s'intéresse aux influences des ondes sonores à l'effet des résonances sur des corps solides. » Des étudiants ont donc mis en place un protocole expérimental, chaque boîte a son style. Un émental est bercé par la flûte enchantée de Mozart, un autre est nourri à la techno, tandis que ses voisins vieillissent au son de « Stairway to Heaven » de Led Zeppelin ou d'un morceau de hip-hop du groupe new-yorkais « A Tribe Called Quest ». Et bien sûr, un formage référence n'est pas sonorisé. Avec ce dispositif, nous pouvons étudier la chose de manière large, estime M. Arenberg. Ajoutant, nous essayons d'opérer dans différentes directions afin de tenter de répondre à la question « Y a-t-il quelque chose à la fin de mesurable ?» ou quelque chose qui a un effet sur le goût. Le projet s'intègre en fait dans un programme lancé l'an passé par la Haute École de la capitale suisse et dont l'idée est de faire se rencontrer les différents mondes qui constituent ce canton à la fois urbain et agricole. Son directeur, Christian Pauli, aujourd'hui rigole. « Nous n'aurions jamais pensé nous retrouver un jour dans la cave d'affinage de Burgdorf à nous préoccuper de fromage. » Quand il a été question de travailler avec M. Wampfler sur ce projet, au début on était un peu effrayés. Mais on s'est dit, du fromage avec de l'art, vraiment ? Nous, associés à une expérience sur le fromage, on a pensé que les gens allaient se dire « Ah oui, la Suisse avec son fromage ». Au final, il a dit oui, convaincu par le fromager, son enthousiasme, mais aussi par le fait que finalement, oui, le fromage faisait partie de la réalité suisse et qu'un rapprochement entre l'art et l'agriculture pouvait être passionnant. Les émmentales vont désormais vieillir en musique pendant plusieurs mois et le 14 mars, au terme de l'affinage, ils seront dégustés par un jury d'experts. Monsieur Wampfler a déjà sa préférence. J'espère que le fromage hip-hop sera le meilleur, cela me plairait, car ainsi on aurait une possibilité d'entrer en contact avec les jeunes. Et peut-être que des gens qui aujourd'hui ne s'intéressent pas au fromage pourraient ainsi prendre du plaisir et en acheter.
Très bien, j'en avais marre d'attendre, donc je vous ramène dans l'espace.
Je vous sentais trembler sur votre fauteuil.
Je trépignais, effectivement. Savez-vous ce qui se passe avec les satellites qu'on envoie dans l'espace une fois qu'ils ne sont plus fonctionnels?
Je crois qu'il y en a beaucoup qui sont un peu dans la poubelle de l'espace.
Oui, effectivement, c'est malheureusement, c'est exactement ça. Imaginez un peu comme un aéroport où des milliers d'avions vides de kérosène seraient laissés à l'abandon, sur le tarmac. Donc ça ferait un sacré bazar. Et bien c'est exactement ce qui se passe depuis des décennies avec les satellites autour de la Terre. Quand ils n'ont plus de carburant, ils ne peuvent plus maintenir leur orbite et deviennent inutiles. Donc même si leurs systèmes ne sont pas du tout abîmés. Des entreprises aérospatiales se sont lancées ces dernières années pour rallonger la vie de ces satellites, en calculant que beaucoup de clients trouveraient cela plus rentable que d'en lancer des neufs à chaque fois. « On jette des centaines de millions de dollars par la fenêtre », dit à l'AFP Al Tadros, directeur des infrastructures spatiales de la société SSL, lors d'un forum à Washington jeudi 8 novembre, consacré au secteur émergent du dépannage et de la maintenance des satellites. Sa société lancera en 2021 un engin baptisé RSGS, capable d'intervenir sur 2 ou 3 dizaines de satellites en orbite géostationnaire à 36 000 km de la Terre, où se trouvent environ 500 satellites actifs, en majorité de télécommunications. L'engin attrapera le satellite pour l'inspecter, le ravitailler en carburant et éventuellement le réparer, changer des composants et le replacer sur la bonne orbite. Un peu comme un camion de dépannage en orbite géostationnaire. Financièrement, cela représente une très grande opportunité, ajoute Altadros. Le géant des communications Intelsat, qui a 50 satellites géostationnaires, a choisi une option différente et signé un contrat avec Space Logistics, filiale de Northrop Grumman, pour son véhicule MEV. Un système très simple, comparable à une dépanneuse, explique à l'AFP Ken Lee, vice-président pour les systèmes spatiaux. Lancé en 2019, le véhicule s'attachera au satellite en panne, le replacera et le maintiendra sur l'orbite correcte, bien orienté vers la Terre, se substituant au moteur épuisé du satellite. Ces dépanneurs pourraient aussi aider à résoudre un problème qui donne des sueurs froides à toute l'industrie aérospatiale, les débris spatiaux. Sur les 23 000 objets spatiaux comptabilisés par l'armée américaine, seuls 1900 sont des satellites actifs. Le reste, qui se déplace à 20 000 ou 30 000 km/h, inclut près de 3 000 satellites inactifs, 2 000 morceaux de fusée et des milliers d'éclats provoqués par deux événements. L'explosion délibérée d'un satellite chinois par un missile en 2007 et la collision en 2009 entre un satellite Iridium et un ancien satellite russe. Les satellites Iridium qui étaient donc des satellites de télécommunication. Aucune solution à moyen terme n'est envisagée pour les petits débris. Mais des sociétés veulent évacuer les satellites morts de la très fréquentée orbite basse jusqu'à un millier de kilomètres. La France oblige depuis 2008 ses opérateurs à s'engager à désorbiter leurs satellites en fin de vie, c'est-à-dire à les faire rentrer dans l'atmosphère terrestre pour qu'ils s'y consument en moins de 25 ans, explique à l'AFP le chef de la sécurité des vols spatiaux au Centre national d'études spatiales. Pour l'orbite géostationnaire, les vieux satellites doivent, à l'inverse, s'éloigner sur une orbite cimetière, 300 km plus loin. On essaie de promouvoir ces principes auprès des autres pays, note Laurent Francillou. Une petite société japonaise, fondée en 2013, Astrocal, développe un système d'aimant pour attraper et désorbiter des satellites. La clientèle n'existe pas encore, mais son directeur des opérations, Chris Blackerby, anticipe un business très viable. Lancement test prévu en 2020. Le futur remorqueur spatial d'Airbus fera descendre les vieux satellites à 200 km d'altitude. Le problème des débris ne fera que s'amplifier. Le nombre de satellites dans l'espace a augmenté de 50% en 5 ans, selon la société Satellite Industry Association, et la croissance continue. Le débat monte aux États-Unis sur le besoin d'une meilleure régulation internationale du trafic spatial, afin d'éviter les accidents et de gérer les futurs conflits. « Nous ne voulons pas que ce soit le Far West », résume Fred Kennedy, directeur du bureau de technologie tactique à DARPA, l'agence de recherche technologique du Pentagone, soulignant que les États, avec leurs satellites militaires, avaient eux aussi tout intérêt à établir de bonnes pratiques aux alentours de la Terre.
Mais oui, mais si on n'y pense pas, je suis en train d'imaginer un grand nuage là, de débris qui nous masquerait le soleil un jour si ça continue.
Eh bien, c'est exactement ce qui pourrait se... Bon, il y a encore de la marge.
J'imagine qu'il en faudrait, mais oui, on a une poubelle.
Mais voilà,
de la tête.
C'est une belle poubelle spatiale que nous avons.
Je m'y mêle, elle s'entremêle. Jamais ne sera un mot de passe. derrière les masques où je suis inconnu. Parmi les plus connus, disco lobo, partager son temps entre plusieurs amants, tous différents, disco lobo, retenir ce mot, faire place à ce je voyage, ah je voyage.
Un soir d'automne, note à l'agenda, 97 rue des Hommes, jamais ne saura un mot de passe, on s'embrasse et s'entrelace d'inconnus, tous dévêtus.
On se croise et s'entrecroise. Je crois deviner un diamant d'il y a longtemps à cette adresse 97.
La formation Le Couleur et la pièce Dis Colombo.
Comme vous me disiez tout à l'heure que vous aviez, comme moi, déjà eu un chien comme animal de compagnie, et d'autres, j'en ai eu d'autres, des hamsters, des poissons rouges, j'ai eu...
Pareil, des poneys, des chats, des poissons, des hamsters, tout, des souris blanches.
Poneys, c'est déjà moins courant, mais vous n'avez, je pense, j'espère, pas eu d'alligator comme animal de compagnie.
Non, ça, j'ai pas eu cette chance-là.
Eh bien, pourtant, il y a des gens qui font ce choix. Ça se passe aux États-Unis, forcément. Un propriétaire du Missouri a fait une découverte inusitée, c'est le moins qu'on puisse dire, en expulsant un locataire mercredi. La découverte est bien celle d'un énorme alligator dans la baignoire. Son maître a assuré que le reptile de 150 livres était, je cite, « doux comme un chiot ».
Oui.
Après que des agents de contrôle animaliers eurent été appelés à la résidence de Kansas City. Un lapin et deux boa constrictors ont également été trouvés sur place. Selon le journal Kansas City Star, l'alligator, qui faisait au moins 1,8 mètre de long, a été retiré par un expert. L'intervention n'a fait heureusement aucun blessé, comme quoi il était peut-être effectivement doux comme un chiot. Le locataire en question a dit posséder l'alligator depuis 4 ans et l'a décrit comme un grand lézard affectueux. L'alligator, surnommé Catfish, sera temporairement hébergé dans le refuge de Monkey Island à Greenwood. Et voilà, il va bien, et les autorités
et où,
aussi.
Où a été retrouvé le lapin? Dans le boa ou ça, dans l'alligator?
Ça, c'est une très bonne question. Effectivement, peut-être que le lapin ne bougeait plus trop. C'est la fin de cette émission assez animalière et scientifique aujourd'hui. Voilà, merci Koum pour ces sujets. Merci également à Jean-Sébastien Laliberté pour la mise en onde et les choix musicaux. Il nous reste à vous souhaiter une bonne semaine, à vous dire à mardi prochain. Et mardi prochain,
nous attendrons effectivement Yves Olivier.
De pied ferme, Yves Olivier avec son sujet sur les mannequins. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, tout le monde.